Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Spectateur, numéro un peu spécial puisque cette fois-ci nous vous proposons une rétrospective la plus large possible, on va essayer, de la Biennale de musique contemporaine, Biennale de Lyon. Je salue d'abord ma co-animatrice, salut Pauline.
Bonjour Marie.
Et notre chère chroniqueuse, Lola Salem.
Bonjour Marie.
Spécial, on vous disait un peu, puisque aujourd'hui on va parler exclusivement de musique.
Oh. Et oui. Ah oui.
Jouissance de Lola.
Tout à fait.
Lola qui est allée voir deux spectacles pour nous lors de la Biennale. On te laisse en parler.
Enfin, ça y est, après de longues semaines, nous allons enfin parler musique. Yes. Ah vraiment, oui, vraiment, je suis contente. Comprenez bien que ce n'est pas que je n'aime que ça, mais enfin, on n'en parle jamais vraiment en temps normal, donc là, oui, c'est super, youpi, c'est parti mon kiki.
Merci pour l'opéra.
Oui, juste une fois, donc bon, voilà. Hein. Et puis, il n'y avait pas tant de remarques que ça au niveau musical, donc je tiens à réaffirmer mon statut de musicienne ici, en spectateur.
Eh bien, je ne suis pas musicologue, moi.
Je tiens d'ailleurs à préciser que ce n'est pas parce qu'on n'y connaît rien à la musique, avec tous les guillemets qui se doivent, qu'on n'a rien le droit de dire dessus. Au contraire même, alors arrêtons d'utiliser cette fausse excuse, voulez-vous ? À bon entendeur. La Biennale qui s'est terminée fin mars a été géniale. L'occasion pour moi d'une grande révélation, Heiner Goebbels. Car oui, je suis toujours enthousiaste à l'idée de cette chronique, mais malgré mon très long passif de musicienne, je reconnais que le nom d'Heiner Goebbels m'était jusqu'à très récemment inconnu. Je l'ai découvert à travers deux œuvres, I Went to the House But Did Not Enter, concert scénique en trois tableaux créé en 2008, sur des textes de Eliot, Blanchot, Kafka et Beckett, et puis Chant des guerres que j'ai vues en deuxième concert. L'occasion pour moi de brosser en une seule chronique l'art superbe et moderne de ce musicien slash metteur en scène hors pair. I Went to the House But Did Not Enter s'est présenté à moi comme une plongée dans la conscience humaine, une plongée par le prisme de l'absurde que j'affectionne tout particulièrement. À travers les quatre textes des auteurs, Heiner Goebbels, qui signe non seulement la musique mais encore la mise en scène, nous offre trois tableaux, trois univers à la fois clos, indépendants et d'une certaine manière intrinsèquement reliés les uns aux autres. C'est un jeu total, musical, théâtral, au sein duquel chaque membre du génial quatuor vocal Hilliard Ensemble n'est jamais tout à fait un personnage à part entière mais plutôt la partie d'un tout. Un tout organique, en éternelle construction et reconstruction, un mouvement perpétuel anime la scène dans une dynamique complexe, tout à la fois mouvante et statique. En effet, ce qui s'est imposé à moi dès l'ouverture de la pièce, à la vue de l'espace scénique transformé en tableau aux mille nuances de gris, ce sont les premiers mots de fin de partie. Fini, c'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. Les grains s'ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c'est un tas. Un petit tas, l'impossible tas. Procession, jeu de symétrie absolue. Le premier tableau, très léché, à l'univers plastique dense et intense, d'une absolue finesse, révèle cependant un malaise profond. Au-delà du rituel, de la mécanique processionnelle, que dire, comment dire, pourquoi dire. « It is not what I meant at all », chante le récitant. Autre négatif présenté sur scène, les viscères de la pièce et des coulisses. Le changement de décor est présenté à la vue du public. Une maison s'avance littéralement vers vous, offre le cadre du second tableau. Dans un contrepoint fugué, une sorte de canon, les voix se succèdent, s'entremêlent furtivement, se croisent et s'interpellent. Le texte de Blanchot, qui baptise par ailleurs le spectacle lui-même, appelle là encore à s'interroger sur la frontière entre réel et imaginaire, sur notre appréhension du monde et de nous-mêmes, sur la limite entre conscience et folie, sur notre conscience, notre propre folie. Qui ouvre les yeux, qui les ferme? L'un rêve de verre pilé sous les paupières, l'autre de justice et de liberté. L'univers, jamais vraiment ou totalement politisé, ne peut néanmoins s'empêcher de faire écho à la résistance. Le texte même de Blanchot date de 1947. Jeu sonore et spatial, les chanteurs se téléphonent, s'écoutent à la radio. Depuis le début, les éléments du décor font partie intégrante de la musique, un aspirateur, une machine à laver, et plus tard un vélo, une télévision. Tous font partie du même tout, comme si la conscience cherchait à se prévenir elle-même, à se sortir de sa propre torpeur. Les chanteurs-acteurs, je pense qu'à présent on peut utiliser cette terminologie, se questionnent entre eux. L'intimité du quatuor, bien que répartie en quatre espaces, n'en est que plus forte. C'est bien la conscience dans toute sa folie qui est mise en scène dans cette petite maison. Encore une fois, la parole tourne en rond, dit et redit, ment et dément, entre vérité illusoire et illusion vraie. Les chanteurs-acteurs alternent entre moments de récitation et déclamation chantée, dans un doux balancement. En donnant l'impression d'un semblant de narration, le tableau s'achève pourtant sur ce vœu « A story, not a story, no more story ». encore, encore rien seront les premiers mots du dernier tableau sur le texte de Beckett. Celui-ci est le plus herméneutique. Il présente un coin obtus de chambre, une grande fenêtre dans le coin. On ne respire plus, on se trouve acculé. Sommes-nous arrivés aux confins de la conscience ? La musique joue sur une écriture répétitive minimaliste, obsessionnelle et si douce à la fois. Dans un contrepoint serré, les chanteurs-acteurs renâclent les mots et leur sens. Chant des guerres que j'ai vu est tout aussi prenant et surprenant.
Toute allusion au thème de la JDR est parfaitement fortuite.
Exactement. Avant même que la musique commence, l'ombre de Goebbels est très facilement repérable sur scène. La disposition de l'orchestre est paramétrée jusque dans les moindres détails, opposition entre le fond, septuor avant, percussion et piano numérique, et le devant de la scène, quintette à cordes ainsi que harpe, luth, piano et clavecin, percussion. Les hommes, austèrement vêtus à l'arrière, légèrement surélevés, frontalement disposés, les femmes devant, avec des hauts de couleur, disposés plus traditionnellement en cercle, recomposant l'ambiance d'un salon bourgeois. Un salon, effectivement, retracé par la présence de lampes placées entre les interprètes femmes. Un espace de recueillement, de mémoire, est ainsi délimité. Peuplé de femmes, d'instruments anciens, luth, clavecin, Goebbels nous incite dès le commencement à nous projeter dans le passé. En effet, le texte récité en relais par les interprètes féminines fait référence à un temps de conflit. La date 1943 est d'ailleurs souvent répétée. Un temps donc passé qui ressurgit par la voix et la musique. Entre douceur, fatalisme et horreur de la guerre, Goebbels nous offre un objet sonore des plus remarquables. C'est la guerre dans son intimité qui est revécue, une expérience personnelle et sensorielle qui est retracée. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le premier texte parle de sucre et de miel, ce dernier remplaçant le premier lors de la guerre. Expérience quotidienne d'un enfant, banalité de la vie en temps extraordinaire. Des fragments de souvenirs refont surface comme des bulles, art de l'instantané du collage, les souvenirs s'enchaînant, à la fois valant pour eux-mêmes et trouvant une certaine résonance les uns avec les autres. Le texte est invocatoire, ne serait-ce que par sa puissance musicale. Douceur des voix, musicalité mélodique et sonore, jeux proprement musicaux, fugue, répétition, refrain. Le texte fait revivre, mais ce n'est qu'un des paramètres du souvenir. À vrai dire, Goebbels, tout comme dans « I went to the house but did not enter », refuse une fois encore de raconter, de créer du récit. No more story, donc, seulement des fragments d'inconscient qui, mis bout à bout, offrent au spectateur une brève plongée dans un univers passé et sonnant pourtant comme familier. Le spectacle est bien court, à peine plus d'une heure, mais il est d'une puissance incroyable. Sans imposer de lecture quadrillée, politisée par exemple, Goebbels ne noie pas non plus son auditeur sous une avalanche de lectures possibles, remettant ainsi en question le préjugé usité de qui fait de la musique contemporaine une musique qui peut tout dire et n'importe quoi. Dans une moindre mesure, de par la lumière qui guide le regard, par l'alternance et le jeu entre les différents effectifs instrumentaux, par son usage de sons en coulisses, de samples, Goebbels propose un parcours d'écoute. Rien ne bouge sur scène et tout est en mouvement. Les souvenirs s'enchaînent, se superposent, se reprennent, se complètent. Les voix font entendre une même sensibilité, partagée par des femmes différentes. La musique fait entendre des lieux et des ambiances diverses, des marches militaires, des villes en effervescence, la simple chaleur d'un salon. Par instant, la musique m'aura fait penser à quelques morceaux de Steve Reich. Dans sa recherche musicale et scénique, Goebbels met à profit tous les moyens sonores possibles pour faire revivre un univers sur scène, et donc utilise des samples, c'est-à-dire des sons préenregistrés, redisposés à volonté. Des bruits de machines à écrire imitent non seulement un mouvement agressif et scandé, le bruit de soldats, la machine belliqueuse irascible, mais illustrent aussi plus simplement le fonctionnement même du spectacle, une machine mémorielle qui remonte le temps et retrace les souvenirs d'une subjectivité. Le processus recréateur à l'œuvre offert au public, quel objet sonore. Un écho pour moi d'un extrait de L'herbe de Claude Simon, Louise pouvant les voir surgir tous les deux, se matérialiser peu à peu à travers le bruit, multiple de la pluie nocturne, les multiples rayures noires s'entrecroisant, se superposant, se biffant, se pourchassant. Comme si une main rageuse avait tissé devant ou par-dessus leur image ce furieux réseau, à la façon dont un enfant griffonne les illustrations d'un livre, le tout possédant en commun cet on ne sait quoi de vaguement fabuleux.
Donc merci Lola pour cette fameuse et formidable chronique que nous avons vraiment savourée. Chers auditeurs, toujours dans le cadre de la Biennale, nous sommes allés à la rencontre, pour vous, rien que pour vous, de plusieurs compositeurs et artistes. Et tout d'abord, nous avons eu le plaisir de rencontrer Kenji Sakai dans le cadre de la préparation et production de son œuvre Blackout, qui s'est tenue à Lyon, donc jouée par l'Orchestre National de Lyon, le jeudi 20 mars dernier.
Et c'était la première. Nous recevons aujourd'hui le compositeur Kenji Sakai, bonjour.
Bonjour.
Que nous allons donc interviewer avec Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour Marie, bonjour chers auditeurs.
Bonjour.
Et donc au moment où nous l'avons rencontré, nous étions à la veille d'un concert qui allait être donné par l'Orchestre National de Lyon avec une composition musicale qui est Blackout, une composition pour orchestre symphonique. À la veille de la première du concert, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement?
Oui, je pense que comme les autres compositeurs, c'est un peu, ça m'a donné un peu de stress quand même, malgré que en fait j'avais la première répétition avec l'Orchestre national de Lyon hier, qui marchait assez bien. Ce soir, il y aura la deuxième répétition avec l'Orchestre national de Lyon, avec la durée de 1h30. Donc la durée de répétition qui dure uniquement 3 heures. Vous voyez que jouer le morceau de la musique contemporaine avec l'orchestre symphonique, c'est trop court. Parfois, les compositeurs de la musique contemporaine écrivent des choses assez complexes en utilisant des modes de jeu spécifiques, c'est-à-dire qui ne se tuent pas conventionnellement dans l'orchestre classique. Voilà, pour ça aussi, ça m'a. On discute tout le temps avec les musiciens, même avant la répétition. Un peu, ça fonctionne comme la lecture.
D'accord. Et avec le chef d'orchestre, comment ça se passe? Vous l'aiguillez un peu?
En fait, c'est une quand même préoccupation de travailler avec le chef de l'orchestre, parce que c'est vrai qu'il y a très bon orchestre avec bonne lecture de la partition. Mais aussi, il y a aussi, malheureusement, il y a aussi le chef qui ne joue pas beaucoup la musique contemporaine. Cependant, cette fois-ci, le chef, Jonathan Stockhammer, qui est un très bon chef, qui est très habitué de jouer la musique contemporaine, surtout en Allemagne. Je le connais depuis longtemps, lui. Mais malgré que c'est la première fois que je travaille avec lui.
Et juste une question, parce que oui. ça m'intéresse. Du coup, vous êtes une équipe finalement multinationale, c'est-à-dire vous-même, vous êtes japonais, le chef d'orchestre est allemand, oui. Etc. Vous échangez en quelle langue? En anglais toujours
ou... En fait, heureusement, il parle bien le français. Hein. Donc voilà, dans la répétition, on se communique en français général, même si je parle le japonais comme la langue maternelle, et puis français avec mauvais accent. Et un peu de l'anglais et aussi l'espagnol, parce qu'en fait, j'étais à Madrid l'année dernière dans le cadre de l'Académie de France à Madrid. En fait, c'est une résidence pour les artistes, non pas concernés, non pas uniquement pour les compositeurs, mais aussi pour des autres artistes, comme filmmaker, puis sculpture, etc.
Donc, le concert qui sera donné, c'est donc une pièce qui s'intitule Blackout, c'est une composition pour orchestre symphonique. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un peu? Quand est-ce que vous avez commencé à l'écrire? Quelle est sa durée? Racontez-nous un peu le processus.
La pièce Blackout, c'est une partie de la pièce diptyque, et l'autre partie qui a été déjà créée au Japon, à Tokyo Opéra City l'année dernière, en juin dernier, avec l'orchestre symphonique de NHK. En fait, la formation de la pièce diptyque, c'est la même. C'est-à-dire, c'est l'orchestre par trois. C'est une grande formation qui se joue continuellement aussi. C'est-à-dire, on joue d'abord Whiteout, puis sans arrêt on peut jouer aussi le Blackout. Quand je commence la pièce typique, j'ai pensé à ce concept. Donc whiteout, ça veut dire c'est la vision dans la tempête ou dans la neige qui n'est jamais claire. On voit rien. Si on voit, mais c'est la couleur blanche. Blackout, ça concerne la vision où on ne voit rien à cause de la perte de la mémoire, soit courant électronique. En fait, dans ma pièce, j'ai pris plutôt deuxième sens, c'est-à-dire le courant électronique, en pensant le phénomène physique réalisé dans la musique. C'est la question de l'imagination. On imagine, il y aurait l'espace vide, et à partir du premier violon qui se joue en pianissimo, ça se finit comme le courant électronique. Et parfois, parfois dégagée par le, par des événements qui entrent. Et comme ça que de plus en plus l'espace de l'espace du courant électronique se remplit dans un espace et qui se explose par des nouveaux événements. Cet phénomène arrive finalement à une sorte de fracas. Donc on arrive au chaos.
D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des projets en tête pour l'avenir, de nouvelles idées, de prochaines compositions?
Pour les prochaines compositions, en fait, il y a plusieurs projets. En fait, le domaine où je travaille concerne plutôt la réalisation avec l'orchestre. Jusqu'à maintenant, j'ai déjà composé une dizaine de pièces pour orchestre symphonique, soit grand ensemble, ensemble de dizaines de musiciens avec électronique, etc. etc. Et désormais aussi, j'ai l'autre commande de l'orchestre symphonique qui sera joué au Japon, puis en Belgique, en mars 2015. Puis l'autre pièce, concerto pour violon et orchestre, qui sera joué en 2015 au Japon, à Tokyo. Je compose les pièces orchestre et aussi je compose l'ensemble pièces pour solistes, etc. Ça ne pose pas de problème pour la vie, hein, en gagnant des commandes. Ça, vous voyez que pour les autres artistes aussi, hein, c'est toujours difficile de vivre avec les commandes artistiques, mais pour l'ensemble, heureusement, ça va.
Alors, deux questions justement. Quand avez-vous commencé à composer et quand avez-vous commencé à en vivre ?
Pourquoi déjà vous êtes-vous orienté vers une carrière de compositeur et de musique ? Et finalement, comment, dans votre histoire personnelle, votre trajectoire biographique, cela s'est passé ?
En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé la composition, la musique. Mais peut-être c'est au niveau de... comment dirais-je ? Du talent que j'ai eu. Voilà, quand je suis né.
C'est,
non, en fait, j'arrive pas à bien expliquer pourquoi j'ai commencé mes études de la musique, mais quand j'étais petit, je me suis déjà intéressé à écouter la musique, jouer le piano, en voyant mes amis jouer le piano, quand j'étais, je sais pas, 4 ans, 5 ans.
Et du coup, votre formation, elle a été laquelle ? Est-ce que j'ai cru comprendre que vous aviez eu un parcours très, très mondial, finalement, international ? Vous avez été en Suisse, en Belgique ?
Oui.
Donc, quels sont les établissements ou les cursus que vous avez fréquentés ?
Voilà, j'ai travaillé le piano à l'âge de 7 ans. J'ai commencé également la composition depuis l'âge de 15 ans, malgré que j'ai déjà composé quelques pièces amateurs, comme l'amateur. Hein. C'est-à-dire, à l'âge de 15 ans, j'ai travaillé avec le professeur de la composition. Et comme ça que, quand j'avais 18 ans, je suis entré à l'Université des Beaux-Arts de la musique de Kyoto. Après mes études au Japon, je me suis très intéressé à travailler en France en écoutant la pièce de Debussy, Ravel et aussi la musique contemporaine comme Messiaen, Brel, etc., etc. À l'âge de 23 ans, je suis entré au Conservatoire national supérieur de Paris où je travaillais, j'ai continué la musique, la composition avec le professeur et également, en fait, il y avait la première rencontre avec électroacoustique que je n'avais jamais travaillé au Japon. Mon intérêt c'est toujours non pas travailler non pas uniquement dans un pays mais aussi travailler dans plusieurs pays en rencontrant des autres cultures, pas forcément l'encontre avec la musique mais aussi le cinéma, sculpture, vidéo, avec le vidéo, etc. etc. Donc pour ça que ça m'a intéressé beaucoup à faire la résidence à Madrid l'année dernière, et où j'ai rencontré plusieurs artistes. pour les musiciens et non et aussi pour les artistes, ce n'est jamais difficile de rencontrer les gens qu'on n'a pas vu. Le réseau artistique n'est jamais fermé, c'est toujours ouvert. Et surtout à nos jours, il y a des outils internet et comme ça que on est déjà amis en regardant Facebook. Voilà. Voilà, le réseau pour les artistes, le réseau c'est très très important. Communiquer avec eux-mêmes, avec des mères, et comme ça que on lance le nouveau projet malgré que on n'est pas encore vu. Et en fait, voilà, chez moi aussi, il y a plusieurs commandes qui se lancent avec les musiciens que je ne l'ai pas vu. Mais par contre, je connais bien l'exécution des musiciens et aussi le talent annexant des enregistrements. Même si je travaille avec les musiciens inconnus, ça ne pose pas de problème.
D'accord, merci.
Eh bien, merci d'être venu jusqu'à nous et de vous être prêté au jeu. On vous souhaite une bonne continuation et puis on souhaite beaucoup de succès pour le concert qui aura lieu demain, donc au moment où nous avons procédé à l'interview. Merci.
Merci.
Merci. Chers spectateurs, chers auditeurs, bref, tous ceux qui nous écoutent et qui ont la passion du théâtre, du spectacle et autres, nous vous soumettons justement à la torture un petit peu, puisque ce n'est qu'une prochaine fois que vous retrouverez les prochaines rencontres dont nous avons bénéficié dans le cadre de la Biennale, et notamment avec Quentin Dubois de l'ensemble Tactus pour un spectacle qui a eu lieu le 20 mars dernier, mais également nous avons rencontré Guillaume Bourgogne pour cette fois une production qui s'est tenue le 28 mars. Les spectacles que nous vous proposons de découvrir dans le cadre d'un prochain numéro sont donc Passacaille, qui s'est tenu en Théâtre Cantor du 2 au 4 avril, mais également Cendrillon a eu lieu au TNP et dont Charlotte nous proposera une chronique. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, allez à la journée de la radio.
Bon, et d'ici là, surtout, en fait, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra, au ballet, au concert.
Tout à fait.
Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.